Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
20h35, nous sommes de retour. Et Taï Chris est toujours avec nous pour débriefer l'actu. Jérôme Colombin et Lucas Perraudin. Après avoir évoqué longuement l'avenir, le destin du Vision Pro, on va s'intéresser à un autre produit, parce que c'était effectivement l'un des objets chouchous de la Silicon Valley, qui était censé peut-être un jour remplacer nos smartphones, rien que ça. Mais on se rend compte que c'est pas évident. Hein. Les iPin, ce badge connecté bourré d'intelligence artificielle, alors il vient de sortir, mais les premiers retours sont absolument désastreux. Anthony Morel nous faisait le tour justement des avis. C'était ce matin dans Good Morning Business.
Ça va être l'un des plus gros flops technologiques de ces dernières années, probablement. Je vous cite les titres des chroniqueurs tech US qui ont pu le tester pour l'instant. Le pire appareil que j'ai testé de ma vie, dit Marcus Brownless, qui est le YouTuber tech le plus influent du monde. Il a des millions d'abonnés. En général, c'est pas très bon signe. The Verge cite tech de référence. Le seul problème avec cet appareil, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à le tester disent que, un, c'est lent. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous lui demandez quelque chose et le moment où il répond, il y a parfois jusqu'à 10 secondes, temps de latence absolument insupportable si c'est censé remplacer votre téléphone. Quand même, c'est lent et en plus, c'est pas fiable. C'est-à-dire qu'en plus, vous lui posez des questions, il vous répond n'importe quoi, il analyse son environnement, ça fonctionne une fois sur deux, donc pas génial non plus. Problème de surchauffe de batterie, pas incroyable pour un appareil que vous portez sur vous. Et puis le prix qui est quand même jugé prohibitif, $700 plus un abonnement de $24 par mois pour la connexion Internet, ça fait quand même cher. Alors, est-ce qu'il faut tout enterrer ? Non. Moi, je pense qu'il faut quand même garder l'idée d'abord que ce sont des pionniers. Il faut avoir le courage de lancer un produit comme ça qui sort complètement des sentiers battus. Et ça va probablement servir quelques-unes de ces briques technologiques dans les futurs appareils qui, effectivement, remplaceront le smartphone, qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la technologie, qui sera remplacé un jour. Est-ce que ce sera par un petit boîtier ? Est-ce que ce sera par des lunettes ou des lentilles intelligentes ? On n'en sait rien pour le moment. En tout cas, ce sera probablement pas les iPin.
Voilà. Bon, C'est pas joli. Hein. Alors, on s'en doutait plus ou moins. Hein,
moi, je suis super triste.
C'est vrai, t'es triste ?
Oui, parce que ce truc-là, alors, j'y croyais pas. Hein, mais j'avais envie d'y croire. Et voilà, c'était un...
Petit gadget parti trop tôt.
Voilà. C'est vachement ambitieux, et puis la démarche était intéressante, et puis c'était une manière de dire, bah, c'est pas parce que le smartphone fait tout et qu'on est les plus heureux du monde avec nos smartphones que ça va s'arrêter là, il y a encore des voies à explorer, etc. Mais bon, voilà. Après, les critiques, moi je veux bien, la critique principale, c'est ça résout aucun problème technologique ou aucun besoin, en fait. Ça répond à aucun besoin qu'on ait. Quoi que ça se discute. Mais en revanche, il y a des critiques qui, je trouve qu'elles sont pas, sont moyennement justifiées, de dire l'autonomie est pas bonne, le temps de réponse, etc. Alors oui, si c'est considéré comme un produit de consommation immédiat, c'est un souci. En plus, il coûte cher, il coûte $700. Hein.
Oui. Mais en plus, il faut un abonnement T-Mobile.
Voilà. Mais si on se dit, ouais, c'est comme le Vision Pro, l'idée c'est d'inventer un nouveau truc, d'ouvrir une nouvelle brèche, etc., on va pas s'arrêter sur des problèmes d'autonomie ou de connectivité. Enfin,
on est au-dessus de ça.
On est au-dessus de ça.
Ou de fonctionnement.
Ouais, ce qui est un peu plus problématique quand même. Hein. Juste un mot sur l'histoire de ce produit qui a été, fondé, créé par des anciens d'Apple. C'est ça aussi qui avait apporté...
Et de Google aussi, je crois.
Imran, c'est l'ancien chief designer d'Apple.
Voilà.
En 2016, il part. Pour la petite histoire, je l'avais contacté, je me suis dit, il part, il va peut-être faire quelque chose d'intéressant, je vais voir, et il m'a snobé, il ne m'a jamais répondu.
Ah bon
voilà, il est puni.
Je l'avais croisé une fois.
Là, si donc, tu rappelles, à mon avis, il ne va pas snobé.
Tu aurais pu être peut-être CEO de Lea Alpin. Bon, là, en ce moment, tu serais pas en forme. Hein.
Mais ils sont bien fundés, je me fais pas de soucis pour lui.
Et donc, ce gars-là est parti d'Apple, tu disais, en 2016. Et c'est ce qui a apporté aussi un certain crédit à ce produit-là. Parce que c'est vrai qu'en général, bon, voilà, quand il y a l'aura d'Apple, on se dit, bah, ouais, tiens, il a peut-être, il sait comment ça fonctionne, etc. Et, bon, visiblement, c'est pas bon.
En fait, il faisait quoi? Il était jardinier chez Apple, c'est ça?
Il était chief design.
Ah oui, quand même.
Non, c'était pas n'importe qui.
Ouais, director of design. Ouais. Non, il était.
Le produit est.
Mais je crois que sa femme. Il n'a pas cofondé la boîte avec sa femme.
Exactement.
Ouais. Et sa femme était chez Apple aussi, je crois.
Ouais. Ils avaient tous les deux 20 ans d'Apple. C'était des
pionniers. C'est incroyable.
Ouais.
Incroyable. Lucas, est-ce que tu peux analyser un peu cet énorme échec pour l'instant, en tout cas, après peut-être.
Énorme échec, oui, ce sera un échec, c'est sûr. Parce que, encore une fois, c'est la même problématique qu'avant. C'est l'étoile noire, le
smartphone.
Il y a de la friction. Le smartphone, ça fait des choses incroyables, des super vidéos, caméras. Moi, je ne tape plus rien. Quand je dois taper sur mon PC, je ne le fais pas. je dicte à ChatGPT parce qu'il reconnaît hyper bien ma façon de parler. Donc j'ai dans la journée, j'ai regardé les stats, il y a à peu près 1h15 par jour où je parle à ChatGPT pour qu'il fasse le texte à ma place.
Et donc, c'est ça, quoi, c'est des mails, c'est quoi? Qu'est-ce que tu lui dis à ChatGPT?
Tout. Je lui dis fais un mail. Là, on doit refaire le site de la boîte, on est plusieurs. Je lui dis, écoute, on a plein d'idées, ça, ça et ça. Organise-moi ça, machin. Je lui parle à moitié en anglais, à moitié en français. Il comprend, puisque bon, moi, je parle du franglais toute la journée. Il comprend quand un mot, alors que Google Speech ne le fait pas. Donc tout ça pour dire que, et ça, c'est des fonctionnalités de cet objet à la base, qui est j'ai une conversation. Donc tout ça, c'est fait par le téléphone de meilleure manière. La friction du téléphone, c'est qu'il faut le sortir, lui parler. Et là, ça a enlevé cette friction-là, c'était toujours là. Mais encore une fois, un accessoire sur un iPhone ou sur un téléphone Android, ça va faire 200 fois mieux que ce truc-là. Il faut payer $700 pour l'avoir, il faut payer $25 par mois pour pouvoir s'en servir. Donc 250, 300 dollars par an, qui va mettre $1000 la première année pour un truc qui ne marche pas. Quoi.
Ouais. Ouais, ça me fait un peu peur pour le Rabbit aussi, hein, qui va sortir, et qui en plus, alors lui, est complètement aspiré par ton étoile noire, parce que en fait, ce produit-là, si tu réfléchis bien, un smartphone peut le faire via des applications.
C'est
un sous-smartphone.
Quand j'ai vu le Rabbit, je me suis justement dit, mais il devrait sûrement, ce que va annoncer Apple au prochain WWDC, c'est simplement de dire une application qui interagit avec toutes les autres applications,
mais bien sûr,
qui te commande ton Uber, ton Uber Eats, etc.
Piloté par le smartphone.
Piloté par le smartphone, en fait.
C'est la proposition de valeur, c'est ça. C'est l'intermédiation.
C'est peut-être ça.
Choisir des apps, c'est trop dur, alors on a une seule app.
Hein, Lucas, c'est peut-être ça le prochain step, en fait, la prochaine innovation. Le constructeur qui arrivera à proposer cette promesse,
en fait,
c'est génial.
C'est très facile à faire. C'est juste une problématique d'accès aux applications. Le truc, c'est que si Apple, ils disent, et avec leur puissance, ils peuvent dire, ou Google, ils peuvent dire, écoutez, désormais, toutes les apps qui sont chez moi, vous avez l'obligation de pouvoir me donner en quelque sorte une backdoor pour pouvoir commander, etc. Et c'est réglé.
Mais ils le feront pas. Ils vont vouloir chacun garder leur précaré.
Évidemment.
Et c'est ça le problème.
C'est la bataille de business model. Là, on est dans la bataille économique, quoi.
Non, mais tu prends l'exemple. Admettons qu'Apple sorte ce truc-là. Pour le prochain iPhone. Je dis n'importe quoi, hein. Mais imagine Uber. Uber, aujourd'hui, tu vas sur l'appli. Quand tu vas sur l'appli, il y a des petites promos. On te propose aussi Uber Eats. Il y a plein de choses qui font que Uber essaie d'augmenter son business. Demain, tu n'as plus qu'à dire, appelle-moi un Uber pour que je rentre à la maison sans lancer l'application. Mais c'est terrible pour Uber.
Ils sont ramenés au rang de fonctionnalité.
C'est un peu comme les opérateurs télécoms à qui t'as enlevé les box télé et qui aujourd'hui ne servent plus que de tuyaux, finalement.
C'est un peu comme dans l'automobile, les sous-traitants automobiles qui sont interchangeables derrière la marque automobile. On prend un phare Valeo ou un phare machin chinois.
C'est ça.
Alors oui, l'obstacle pour que ceci arrive chez Apple, c'est la position monopolistique.
Oui,
parce que s'ils ont tout le hardware plus toute l'interface software et que les autres puissent plus monétiser, bon là Zuckerberg il va avec une batte de baseball à Cupertino là, parce que déjà qu'il supporte pas sa dépendance et toutes les contraintes que met Apple sur les données, etc. Là je pense qu'on sera en guerre. Donc je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive avec Apple pour cette raison là mais effectivement il y a deux écoles dans la Silicon Valley pour la disruption, donc pour passer au-delà du smartphone, c'est des hardware qui font donc des casques immersifs, etc., la réalité virtuelle, réalité augmentée avec l'operating system et les apps qui soient nativement dessus, donc pas de l'iOS, pas de l'Android, et les gens qui
donc
disent,
déconnectés du téléphone,
ce qu'on appelle standalone, pour encore une fois parler bien français, mais qui sont donc des appareils à part entière avec leur écosystème hardware et software. Et il y a la déintermédiation par l'intelligence artificielle qui est, je vais mettre une couche, alors une interface, ça peut être un pin, ça peut être un rabbit, qui va faire en sorte que tu ne sors plus jamais ton téléphone de ta poche. Parce que je vais lui parler, puis il va faire tout ce que j'ai besoin de dire. Il y a la problématique de l'écran, parce que se projeter un truc sur la main, c'est illisible. Mais ça, c'est les deux écoles.
À Barcelone, il y avait une personne de la société là, qui faisait les démos, et qui faisait notamment la démonstration de prendre une photo, et ensuite elle montrait la photo dans sa main, je ne te raconte pas ce qu'on voyait. Quoi. en monochrome. Ouais. Et c'est vrai que, bon, voilà, et je me souviens lui avoir posé la question, d'ailleurs, sur le fait que, à quoi ça sert, surtout quand on a déjà une montre connectée, comme on le disait tout à l'heure, la montre qui, parfois, dans certains cas, peut entièrement remplacer le smartphone, surtout si tu prolonges ton abonnement, ton forfait, etc. Et là, voilà, c'est, en gros, c'est pour ceux qui n'ont pas de montre, quoi. Et puis, sauf que la montre n'a pas d'appareil photo. Là, il y a un appareil photo, ça fait des vidéos, etc.
Mais il faut toujours ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'on n'est pas à faire ça. Sortir son téléphone, c'est de la friction. Donc tout ce qui va, le pari de toutes ces boîtes-là, c'est de dire, je vais être plus malin qu'eux, je vais passer par-dessus cette friction-là, et ça va attirer les utilisateurs. Mais la barre, elle est hyper haute.
La barre est haute et ils se trompent de bataille. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est les dizaines d'apps qu'on a dans nos téléphones. C'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, t'as envie de faire quoi que ce soit, tu es obligé de créer plein de comptes différents. Celui qui simplifiera tout ce modèle, ça va quand même nous changer la vie.
Apple essaie, avec t'as vu les remplissages automatiques, trouver des mots de passe automatiques, etc., justement pour enlever cette friction.
C'est l'ambition du Rabbit. Il a présenté ça comme un OS, une espèce de méta-OS capable, grâce à l'IA, de faire tout ce que tu n'aurais plus à faire sur une appli.
La réalité, c'est que dans la journée, tu utilises 3 apps.
Ouais.
La plupart des jeux, enfin, tes 2 réseaux sociaux préférés. Bon, nous, on est des geeks. Moi, j'utilise. Deux réseaux sociaux, une application de messagerie, et puis.
Mais tes mails,
pour commander, tes mails.
Bon, les iPin, je sais même pas
si. C'est pareil, il va au cimetière, avec, comme le Vision Pro, comme le Rami.
Non, alors. quand même, je pense que le Vision Pro a un petit peu moins funeste.
Ouais. Un écosystème iPhone, Watch, AirPod. Donc je peux avoir des conversations, ça remplace tout ce que fait les iPin. La question, c'est est-ce que je peux sortir la caméra? Il manque plus qu'un petit, Ray-Ban-like, soit un truc là, et on a tout en 10 fois.
C'est intéressant parce qu'il n'y a aucune rumeur concernant une paire de lunettes Apple avec un peu de connectivité, choses comme ça.
Je pense qu'ils y réfléchissent.
Ils y réfléchissent, je pense. Si on parlait d'IA, tiens.
Il y avait longtemps.
L'IA générative, parce qu'il faut savoir que les Français adoptent l'IA générative en masse. C'est intéressant. Malgré les problèmes de sécurité, de confidentialité, on est de plus en plus nombreux. On vous a préparé d'ailleurs quelques petites infographies si vous êtes avec nous à la télé pour bien vous expliquer tout ça. Par exemple, le nombre d'utilisateurs a bondi de 60% sur un an.
C'est étonnant.
Concernant l'IA générative, c'est beaucoup quand même. Donc 48% sont encouragés par leur entreprise. Donc on voit que, alors après j'imagine que c'est certains métiers, bien évidemment, qui sont vraiment très informatisés. C'est intéressant.
Super intéressant parce que moi j'avais l'impression que au départ, quand ChatGPT est apparu, c'était un peu l'inverse. Et alors, pour parler d'un métier que on connaît, qui est le journalisme, dans les médias, c'était la frilosité absolue. Pour ne pas citer un très grand groupe audiovisuel que je connais d'à peu près qui carrément avait fait passer le message « Vous ne touchez pas à ChatGPT !» C'était le truc interdit.
« Surtout pas !»
« Surtout pas !» Évidemment, tout le monde y allait en loose day, bien sûr. Mais voilà, il y avait une espèce de méfiance, de peur, de... Après, parce qu'il y avait des dérapages, c'est sûr que si on va sur ChatGPT pour chercher de l'information, surtout avec la version 3.5, on était sûr d'aller au casse-pipe. Mais bref... Là, effectivement, ce sondage, je trouve qu'il est super intéressant. En plus, alors, sans surprise, c'est les jeunes, apparemment, qui sont les plus utilisateurs, qui sont les plus friands. Mais 78% des Français ont entendu parler au moins des IA génératives. Il y a déjà 35% qui disent qu'ils auraient du mal à s'en passer.
Ouais. Intéressant. C'est un sondage que l'on doit à l'IFOP pour talent, en fait.
Ouais. La différence entre un produit qui apporte quelque chose qui est prêt et un produit qui n'est pas prêt. Il n'y a pas besoin de le forcer. Ils le mettent en ligne. Il y a 100 millions d'utilisateurs 6 mois plus tard. C'est ça qu'on appelle la disruption.
Bien sûr, parce qu'il apporte aussi
une
valeur ajoutée. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quelles sont les IA génératives les plus utilisées par les Français. Alors, bon, sans trop de suspense, ChatGPT, qui remporte tous les suffrages. 66% utilisent donc ChatGPT d'OpenAI.
La prime au primo arrivant, quoi.
Ouais, donc 11% la version payante. Ouais. C'est quand même beaucoup,
C'est bien.
Donc ça veut dire que les utilisateurs se rendent compte de la puissance de la bête et sont prêts à donner 20 euros par mois pour avoir la version
si vous êtes
débloquée.
Cadre, agent de maîtrise dans une entreprise, je ne saurais que vous conseiller de dépenser 20 euros par mois. ça vous rendra beaucoup plus performant que vos collègues d'entreprise.
Et c'est sans doute l'un des investissements au rapport qualité-prix les plus impressionnants.
Vous avez accès à la même technologie que le Pentagone. Personne n'a une meilleure technologie d'IA dans le monde disponible.
Après, ça se discute. Parce qu'il y en a d'autres maintenant. Il y a Claude,
Moi, j'ai Gemini. Claude, Gemini 1.5.
T'as Claude, le high level, le premium machin.
Non, pardon, j'ai essayé Mistral le grand là.
Mais, ouais. Mistral Large.
Large. Gemini, depuis avant-hier, je l'ai en niveau Enterprise 1.5. Bon, j'ai passé 2 heures dessus, puis je suis retourné sur GPT-4 parce qu'ils font un training tous les. Donc,
mais après, c'est relatif parce qu'il y a un truc qui me frustre énormément sur GPT, c'est qu'ils l'ont bridé sur plein de sujets. Et du coup, il y a plein de choses que je cherche sur GPT parce que soit je veux réécrire un texte, et là ça marche très bien, c'est nickel. Mais si j'ai envie de l'utiliser un petit peu comme un Google à chercher des infos, et bien là, à chaque fois, désolé, on ne peut pas vous donner cette info. Alors que s'il y a 6 mois, il me l'a donné très bien.
Va sur donc, ils Perplexity.
Perplexity, ça fait du search, ça marche très bien.
Okay. En tout cas, sur Gemini, là, pour le coup, ça me permet, à chaque fois, je suis bloqué sur GPT, parce que, et ce qui est très frustrant, c'est qu'il y a 6 mois, ce n'était pas bloqué, la même info, je l'avais.
Oui, mais c'est pas un moteur de recherche, ChatGPT. Et ça, c'était vraiment, je trouve,
oui, c'est un outil conversationnel qui, voilà.
Ce qui est Lucas. En train de la révolution 2024 de l'AI, c'est ce qu'on appelle agentic AI. Hmm. Je ne sais pas si c'est déjà sorti. Les agents. Donc, retenez un nom, c'est LangChain, qui est un logiciel en accès libre qui permet d'aller chercher des GPT quand on en a besoin, d'aller chercher sa propre donnée pour l'informer quand GPT n'est pas informé et de personnaliser ça, de changer la façon dont on fait des queries pour réduire les hallucinations. En gros, ça fait du ping-pong. Je pose une question, elle est un peu ambiguë. Ça demande d'abord à GPT de poser 5 questions similaires à ma question pour recontextualiser et remettre tout ça dans le prompt derrière. En fait, il y a beaucoup plus de cadrage dans le prompt, donc il y a moins d'hallucinations. Nous, on déploie ça dans les entreprises. Vous avez une base d'entreprise, votre base produit, votre commercial veut savoir c'est quoi le type de vis dans la collection 1, 2, 3, 4, 5, GPT, il ne sait pas. On fabrique des cascades où il va chercher, on vectorise tout ça, on les met dedans, GPT regarde, il sort ça et il lui répond, tu peux dire à ton client que c'est les vis 1, 2, 3, 4. Donc tout ça, c'est en train d'arriver très très fort, il y a plein de boîtes qui bossent dessus.
En fait, ça nourrit GPT-4 sur des sujets de niche qu'il ne connaît pas.
Ça fait de l'injection de savoir et de la réduction de savoir dans un autre sens, ça fait de la réduction de contexte, ça évite les hallucinations, qu'il ne te parle que du domaine dont tu veux parler, réduction de contexte, fine-tuning, et de l'injection de savoir avec le RAG, Retrieval Augmented Generation, ça va chercher ta propre donnée pour lui donner.
C'est avec ça que tu peux faire des programmer des applis mobiles de A à Z, parce qu'il va chercher toutes les briques, assembler toutes les briques ensemble, etc. Mais il y a une start-up qui a fait pas mal de buzz il n'y a pas longtemps, sauf qu'apparemment on a vu que des vidéos, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Devine, oui, pour le développement.
Ça, ouais. Mais il n'y a pas de réalité pour l'instant.
Non, mais Devin, c'est autre chose. C'est un copilote de coding. Et en gros, la proposition de valeur, c'était de dire, vous n'avez plus besoin de vos codeurs. Quoi. Voilà. Donc ça, ce n'est pas vrai. Par contre, avec des codeurs plus durs. Aujourd'hui, un agent AI qui va chercher de la donnée, par exemple, ça ne fait pas très bien le calcul chez GPT, mais si vous avez un programme de calcul, ça c'est lui dire calcule ça et rends-moi le résultat et vous le redonnez et l'intégrer ensuite dans le raisonnement suivant. Donc c'est du raisonnement en chaîne, en gros
il devient méta chatbot quoi.
Mais ça augmente les humains, ça ne remplace pas les humains, mais par contre ça les augmente bien, de 40% on va dire, donc ceux qui ne sont pas augmentés ils courent moins vite quoi.
Ça c'est fou,
c'est clair. Tu utilises beaucoup, tu le disais, ChatGPT.
Ah oh bah oui. Moi, tu sais, j'ai jamais été à l'école, donc pour écrire un texte proprement.
Non mais c'est vrai. Si tu veux. Non mais c'est vrai que tu fais partie de ces autodidactes qui ont réussi sans avoir.
Non mais quand je dis, j'ai jamais été à l'école, même pas une journée en maternelle quand j'étais gamin. Ouais. Donc j'ai appris à la maison, mes parents qui me faisaient des dictées. J'ai jamais été en classe, même pas gamin. Donc c'est vrai qu'en grandissant, j'avais toujours eu des lacunes en termes d'écriture. Je faisais des fautes d'orthographe, etc. Alors maintenant, avec les années, évidemment, j'ai appris. Mais c'est vrai que ChatGPT me sert facilement parce que t'as envie d'écrire un texte un peu plus formel. Tu économises 20 minutes de réflexion, quoi.
Ouais. Extraordinaire. Et le prochain step, c'est cette intelligence artificielle, on va dire,
Générale.
Mmh. Est-ce que tu la vois arriver en 2024 ou 2025?
Je suis pas assez fort en maths. À la fin, l'intelligence artificielle, c'est des maths et des computer science. Je sais bien comment les modèles actuels travaillent. A priori, c'est pas possible avec eux. Même si on en a l'impression, et Lequin, il dit que
d'après
non.
D'après Lequin, c'est pas possible.
Il s'y connaît mieux que moi. Alors, le seul truc qui me descend un peu chez lui, c'est que il est le pape de tout ça. Il est l'inventeur de beaucoup de choses, mais je pense qu'il est très déçu de ne pas avoir été celui qui l'a opérationnalisé dans le monde, et ça se ressent un peu dans ses feedbacks.
Oui.
Mais bon, s'il lui dit non, c'est que c'est non. Hein. C'est
tu parles de Mark Zuckerberg qui en veut beaucoup à Apple. Je pense que Yann Lequin en veut beaucoup à OpenAI et à Microsoft.
Il y a beaucoup de gens qui en veulent beaucoup. Google aussi en veut beaucoup, certainement à
Google. OpenAI. Moi, ça me fend le cœur parce que Pixel, machin, l'écosystème Google, je pense que c'est le meilleur du monde. Mais Gemini, ça marche pas. Et à chaque fois qu'ils font une release, j'ai l'espoir. C'est décevant. C'est décevant.
On a l'impression que OpenAI,
ça marche, mais pas aussi bien.
OpenAI et ChatGPT ont une recette secrète, une espèce de sauce, dont ils détiennent la recette, qui fait que ils sont arrivés à quelque chose de quasi parfait.
Ils ont l'avantage du challenger, c'est qu'ils ont droit à l'erreur. Ils ont mis un produit imparfait sur le marché. Si Google avait fait ça, on aurait dit, mais qu'est-ce que c'est?
Exactement.
Si Google nous avait mis un produit qui a des hallucinations sur le marché, on n'aurait jamais accepté ça. Donc, ils ont
cette agilité, ce droit à l'erreur
permanent.
Que Google ne peut pas se permettre d'avoir.
Alors, Google, ça marche très bien. Vertex, tout ça, c'est des super... Les environnements ML, Machine Learning, TensorFlow, qui est la solution de Google, c'est incroyable. Et j'encourage toutes les boîtes du monde à regarder ça, parce que ça peut faire des choses.
Oui.
Mais Gen AI, Conversational AI, pour l'instant, c'est décevant. Je ne peux pas le dire autrement.
T'as vu, on parlait du sondage. Là, j'ai repéré un autre sondage avec un chiffre qui est intéressant aussi. Mais bon, il date de l'année dernière. Mais qui montre que les Français, contre toute attente, sont vraiment en phase avec l'IA et l'IA générative. Parce que c'est un sondage de PwC qui disait que seulement 9% des salariés français craignent d'être remplacés par l'IA dans leur travail. Alors qu'au niveau mondial, c'est 13%.
Ah oui.
Donc on a plutôt l'IA positive, nous. Hein.
Bon bah tant mieux. On est optimiste pour une fois, hein, pour une fois qu'on gueule pas dans notre coin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Taïg.
Merci, c'était un plaisir, trop bien.
Taïg Chris qui a testé le Vision Pro et a adoré. Ce qui n'est pas le cas de Lucas Perraudin. Il va falloir que, tu sais quoi, si t'arrives à en avoir un.
Faites-vous une soirée.
J'en ai à Londres, mais j'ai pas essayé.
T'as même pas essayé.
Je vais le faire. Je promets. La prochaine fois que je viens, je vais snobber le Vision Pro.
Et merci donc à Lucas Perraudin de Moula Digital. Et merci à Jérôme Colombin, ton podcast Monde Numérique.
Ouais. Tous les samedis et même tous les jours.
Tous les samedis, tous les jours, avec le meilleur de l'actualité.
Demain, je parle du robot dont on n'a pas parlé, tiens.
Oui, alors je sais, en plus, on avait titré sur le robot Atlas, mais les sujets sont tellement passionnants qu'on a un peu débordé. On en parlera demain parce que, évidemment, Boston Dynamics qui met à jour son robot Atlas, c'est très intéressant. Ce sera demain dans Tech & Co. On terminera la semaine sur ça.